Salut la commu.
Bonjour.
Bonjour. Et bienvenue dans Lemonade with the
Lemons. Et voilà, c'est parti. Bienvenue. Cling, cling.
Salut la commu.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Charlotte.
Tant d'énergie.
En même temps, c'est un sujet un peu sympa.
Un peu sympa. Il était temps parce que le dernier épisode n'était pas si fun, hein.
Ah, on parle de ça comme si c'était genre lointain alors que ça fait 10 minutes. Aujourd'hui, c'est un sujet sympa.
Sympatoche.
Puisqu'on va parler du voyage. Hein.
Le voyage spirituel. Non.
Non, juste le voyage tout court.
Pourquoi ce choix?
Bah,
j'aime bien à chaque fois qu'on justifie le choix de nos thématiques.
Bah, écoute, moi je suis quelqu'un qui se justifie beaucoup. Hein,
donc... Finalement, c'est notre personnalité.
Donc ça me va. On parle du voyage parce que moi je suis revenue de voyage il n'y a pas longtemps.
Yes.
Que toi, c'est une expérience que tu as vécue aussi.
Yes.
Et que je pense que l'une comme l'autre, à notre échelle, ça nous a changé. Et
yes.
Que c'est quelque chose qu'on a envie de partager, tout simplement.
Yes!
Ton envie de voyage, toi, elle a commencé comment? C'est quoi tes premiers voyages? Comment c'est venu cette envie de boucher, de voir
de
le monde?
De boucher, de déménager. En fait, moi, j'ai eu l'occasion... Alors, c'est drôle parce que j'en parle beaucoup dans ces podcasts alors que j'en parle jamais dans ma vie.
C'est vrai.
Mais j'ai eu la chance d'aller vivre 5 ans en Italie pour le travail de mon papa quand j'avais 9 ans, donc entre mes 9 et mes 14 ans. Et en fait, quand on est rentré en France, ma première envie, ça a été d'avoir envie de repartir. Parce que j'ai adoré l'idée de rencontrer d'autres gens, d'autres cultures, d'autres façons de parler, d'autres façons de penser. Alors pourtant, l'Italie, c'est raisonnablement proche. Mais juste sociabiliser avec d'autres personnes, avec des accents rigolos et avec d'autres façons de voir des petits trucs du quotidien, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, quand je suis rentrée, j'ai toujours su que je repartirais, quoi. Et toi ?
Moi, j'ai eu la chance de voyager très jeune. Parce que mon papa et ma belle-mère adorent voyager. Du coup, ils nous ont emmenés en vacances dès petites. J'ai eu l'habitude de partir en vacances en Espagne. On a fait la Tunisie. On partait tous les étés, en fait. Et j'ai toujours eu ce privilège. Et en même temps, qui tout de suite m'a donné l'envie de le faire plus tard de moi-même.
Mmh.
Et je pense que ce qui a vraiment... déclencher quelque chose en moi, c'est notre voyage à New York. Donc j'étais en terminale, j'avais 17 ans. Et on est parti à New York en famille pendant une petite semaine, quelque chose comme ça. Et là, il y a eu ce truc en moi. Alors je suis tombée amoureuse de cette ville. J'y suis retournée deux fois après ça, dans des conditions spéciales. Je pense qu'on pourrait faire un épisode sur ma relation à New York, parce que vraiment, c'est une grosse blague. Mais du coup, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour New York. Et globalement, de ce voyage, j'ai eu ce truc de « ok ». Un jour, je vivrai à l'étranger, parce que c'est trop chouette. Et moi, c'est les grandes villes. C'était vivre dans une énorme ville, ça me faisait vibrer.
Puis New York, quoi.
Bah, New York, quoi. Hein, on vous fera pas la chanson d'Alicia Keys, mais on la pense très fort.
En fait, voyager, ça implique plein de choses. Moi, ce qui m'a fait avoir envie de voyager, c'était l'envie de découvrir, en fait. Je suis curieuse de base, c'est ma personnalité. Et il y avait deux choses. Quand j'ai décidé de partir voyager à 21 ans, il y avait deux trucs. Il y avait l'envie de découvrir. Vraiment, j'avais juste envie de me dire, en fait, c'est bien, t'as vécu 20 ans, 1 an sur la planète et t'es censé, en gros, avoir compris comment marche le monde pour pouvoir définir ce que tu veux y faire. Sauf que, à l'autre bout de la planète, tu sais pas ce qu'il y a, quoi. Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait une envie, moi, c'était de littéralement de m'arracher à mon cercle familial et amical et de dire... tu pars YOLO, tu t'éloignes de tout le monde et tu vois qui tu es, en fait, loin de tout le monde. Mm. Et puis, il y avait aussi ce truc qui est très symptomatique de maintenant, c'est les réseaux sociaux, les YouTube. Enfin, moi, je consommais beaucoup de vlogs de voyage et tout, et je me suis dit, ça paraît trop beau pour être vrai. Et du coup, j'avais un peu envie de tester, de dire, est-ce que c'est aussi beau que ce qu'on nous vend, tu vois. Et est-ce que la France, c'est vraiment horrible par rapport à ailleurs? La réponse est oui, mais il fallait que j'aille voir en fait finalement si l'herbe était pas plus verte ailleurs, quoi.
Ouais.
Et je trouve que c'est une bonne raison de partir voyager. Après, il y en a plein d'autres, hein.
Ouais.
Toi, c'était un peu ça aussi, mais
Il y a eu mon voyage du coup le plus récent, mais globalement, quand j'ai commencé à vivre ma vie de célibataire, il y a 3 ans, j'ai eu un peu ce défi parce que moi j'ai été en couple du coup pendant des années. Et du coup, quand je me suis séparée, je savais pas trop qui j'étais. Hein, globalement, moi, être en couple, c'était mon identité. Et voyager toute seule, ça a été un de mes défis personnels. Donc j'ai fait un premier voyage à Rome pendant 3-4 jours. Et ça me fait rire quand j'y repense, parce que je me revois dire à ma belle-mère en revenant 3-4 jours c'est bien, mais tout seul je ferais pas plus. Hein.
Si t'avais su.
Et donc j'ai fait Rome, j'ai fait Porto et j'ai fait Amsterdam toute seule. Et en fait, faire ces voyages toute seule, ça m'a donné une confiance en moi et une liberté incroyable. Ce truc de je suis toute seule, je fais ce que je veux, je vais où je veux, je mange à l'heure que je veux. Vraiment, c'est tout ce que je veux moi. Et j'ai découvert plein de choses. Et c'était à chaque fois des courts voyages, je restais 4-5 jours. Mais rien que ça, ça m'a donné le goût de l'aventure un petit peu.
Ouais, c'est ça.
Et ce qui m'a amené du coup à notre point commun qui est l'Australie. Puisque moi, je suis partie pour 7 semaines en tout, je crois. En gros, j'ai fait à peu près un mois et demi en Australie, puis j'ai fait 10 jours à Bali où là ma meilleure amie m'a rejoint. Mais globalement, moi, ma partie Australie, c'était mon voyage toute seule. Je suis partie sur une courte période, contrairement à beaucoup de gens qui, quand ils partent en Australie, font le PVT, le voyage travail. Mm-hmm. Moi, je suis partie en congé parce que Sandrine, si tu passes par là, merci. Parce que j'ai la chance d'avoir une boss qui est vraiment incroyable et qui est d'une compréhension. Et d'une empathie inégalable, qui du coup a fait en sorte que je puisse partir. On a pris une stagiaire pour compenser mon absence, qui a été une de mes plus belles rencontres, au passage, je le dis quand même, de cette année. Du coup, j'ai pu partir en congé payé en Australie, et du coup, je n'ai pas eu à travailler.
J'ai le kiff quand même.
J'ai vécu 2 mois quasiment sans travailler, en vacances, à l'autre bout du monde, et c'était absolument incroyable. Et c'était. Je me souviens de notre copine qui, elle, est partie 3 mois toute seule aussi à l'étranger, qui m'avait dit « t'auras peut-être ce truc dans l'avion de « oh là là, mais qu'est-ce que je fais ? C'est pas du tout moi de faire ce truc-là. » Et moi, j'étais à l'inverse de ça. Je me souviens d'arriver à Singapour, donc du coup pendant mon escale, et d'être hyper zen, et en mode « je sais que ce que je fais, c'est ce qu'il faut. Je suis là où je dois être. C'est l'aventure de ma vie. » Enfin, en tout cas, jusqu'à ce moment-là, c'était l'aventure de ma vie. Et hyper zen de je fais le bon choix.
C'est hyper instinctif ce truc-là.
Ouais. Bah, c'était vraiment ça. Et c'était le but de mon voyage d'ailleurs, ça faisait partie. J'ai fait une petite to-do list des choses à vivre en Australie. Et écouter mon instinct, ça en faisait partie. Et ouais, ça a été. J'ai coché la case. Hein.
Ah bah, il fallait. Hein. Moi, je suis. Moi, justement, j'ai fait l'inverse. J'ai fait le fameux PVT. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis partie à deux. Cette phrase est étrange. Mmh. Mais je suis partie avec ma partenaire de l'époque qu'on appellera Péton, hein, parce que je sens que je vais dire son prénom, donc il faudra biper. Moi, l'objectif, c'était donc de partir le plus loin possible, dans un pays cool, parce que partir pour partir, c'est rigolo 5 minutes. Et puis, dans un pays où trouver du travail, ça allait arriver facilement. Et assez rapidement, l'Australie, ça s'est révélé être le pays qui paraissait le plus cohérent. Ça faisait 3 ans que j'avais envie de partir et que je réfléchissais vraiment à un projet de départ. Je voulais finir mes études parce que j'étais pas sûre de les reprendre si je partais au milieu. Donc je m'étais engagée auprès de ma maman, entre autres, à finir mon master et puis partir après. Sauf que dans tout ça, moi j'imaginais ça à deux, mais j'en avais jamais parlé à ma copine. Et un jour, je me suis dit, peut-être ce serait sympa d'informer la personne avec qui je veux partir que je veux partir.
Intelligent, ouais.
Et finalement, dis donc, il y en a là-dedans. Dis donc. Et du coup, j'ai eu ce moment de merde. Peut-être t'aurais dû lui en parler avant. Et en fait, quand je lui ai proposé, elle était aussi emballée que moi. Et en fait, elle m'a dit qu'elle aussi, elle y réfléchissait depuis un moment, mais qu'on n'en avait jamais parlé, donc c'était hyper, hyper rigolo quand même. Et du coup, j'ai validé mon master et on a pris l'avion direction Sydney, quoi. Donc le but initialement c'était de partir et de faire un an là-bas et puis de voir après ce qu'on avait envie de faire. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé puisqu'on a mélangé. En gros au début moi j'avais vraiment l'impression d'être en vacances puisque j'avais mis de l'argent de côté pendant mes 2 ans d'alternance, donc j'avais un petit peu d'argent de côté pour vraiment faire que du kiff. Donc on a fait le classique Airbnb dans 2-3 villes. On a pris des bus de l'enfer dans des montagnes où tout le monde gerbait. Enfin, on a fait le truc le total. Après, on a loué un van. Moi, j'étais terrorisée par l'expérience. Mais en fait, on a un peu mélangé tout. Mmh. Et puis après, on s'est installé à Melbourne. Parce que, de ce que je lisais, c'était la ville qui paraissait le plus en accord avec notre envie. C'est-à-dire bosser quelques mois pour ensuite repartir, mais vivre quand même dans une vie cool pour pas subir, en fait, le taf. Et puis voilà, en fait, on découvre Melbourne, on s'installe, on prend une petite loc, un petit appartement qui fait trop chou. Dégueulasse quand on l'a récupéré, parce que vraiment, l'immobilier en Australie est globalement géré par des Chinois, qui n'ont pas du tout le même sens de la propreté que nous. Donc vraiment, on a récupéré un appart. La première chose que j'ai acheté, c'est simple, c'est un siège de chiottes et des produits ménagers. Donc voilà. Mais en fait, du coup, on s'installe à Melbourne, on cherche du taf et il n'y a rien qui vient, parce qu'en fait, tout le monde nous dit, bah, en fait, il y a tellement de jeunes qui voyagent qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, tout simplement. Et du coup, on sent que ça se passe pas comme on veut. En plus, à cette époque-là, il y a des énormes feux de forêt qui se déclenchent. Feux de forêt qui, encore aujourd'hui, sont un peu historiques, parce qu'en fait, ça a décimé une grosse partie de l'Australie nature, on va dire. Et en fait, ces feux font que beaucoup de monde reviennent vers les villes, parce qu'en fait, les campagnes sont complètement prises d'assaut. Il y a du feu partout. Et en fait, on est donc à Melbourne, et Melbourne, c'est entouré de forêts. Et toutes les forêts sont en feu. C'est-à-dire que vraiment, on est à quelque chose près de se faire enfermer dans la ville. Et surtout, il y a ce truc terrorisant qui en fait annonçait un peu la suite. Tout le monde s'est mis à porter des masques parce qu'en fait, on pouvait plus respirer l'air tellement il y avait de cendres dans l'air.
Il faut rappeler que t'as une phobie du feu quand même.
Ouais, un peu, ouais. Ouais. J'ai 2-3 petits tatouages sur le corps qui l'indiquent. Mais alors, déjà, moi, ça me terrorisait sur l'aspect pur on va mourir. Mm. Voilà. Et puis, il y avait aussi ce truc de en fait, si on peut pas faire le principe même de pourquoi on est venu en Australie, c'est-à-dire sortir, parce que en fait, l'air est noir, parce qu'il y a de la cendre partout, bah.
Ouais.
Ça, tu vois, tu parlais d'instinct tout à l'heure, on avait l'instinct qu'il fallait qu'on bouge. Sauf que moi, j'ai eu une 15 jours de les pires crises d'angoisse de ma vie. Bah, du coup, le feu a peut-être dû jouer, je me dis maintenant avec un peu de recul. Et puis, une petite maladie commençait à se répandre dans le monde. Un petit truc, hein.
C'est quoi le nom déjà?
Le Covid.
Covid, c'est ça.
Voilà. Et Peyton, du coup, me dit, bah écoute, j'ai un feeling, viens, on se casse en Nouvelle-Zélande. Donc au début, je comprends pas, mais je me laisse un peu porter parce que je suis tellement dans mon angoisse et tellement dans l'instinct qu'il faut bouger que je lui dis, ok, on y va. Et là, je découvre le pays de mes rêves. Mais l'Australie, moi, ce qui m'a marqué, c'est... outre les araignées et les kangourous. Il y a un aspect qu'on entend très peu, c'est qu'en fait, les grosses villes sont vraiment prises d'assaut par les étrangers, et du coup, tu rencontres très peu d'Australiens dans les grandes villes. Moi, ça m'a beaucoup frustrée. Et du coup, j'ai été ravie d'arriver en Nouvelle-Zélande, et pour le coup, d'être face que à des kiwis. Pas les fruits, hein, les gens. Et en fait, qui correspondait beaucoup plus à ce que j'avais envie de voir, alors que de base, moi, j'avais trop envie de voir les villes, le truc un peu à l'américaine de l'Australie, Melbourne, les grands machins et tout. Et en fait, j'arrive en Nouvelle-Zélande au milieu d'une campagne et je me dis, mais putain, mais c'était ça que je cherchais en fait. Enfin, alors, pas une campagne à la française avec les petites vaches, hein, mais des campagnes avec des falaises et des moutons qui ont plus de poils que mon crâne. Mais et c'est drôle parce que du coup ton instinct mais encore bien travaillé par la société fait que naturellement tu vas dans des villes,
ouais.
Et en fait quand t'arrives et que ton instinct il te dit mais frère t'as qu'une envie, c'est d'être au milieu d'une falaise, au milieu de rochers et de moutons, et tu seras hyper bien, tu vois. Et du coup moi nature peinture, j'y suis allée dans la petite Nouvelle-Zélande et j'ai vécu le kiff de ma vie, quoi. Alors, il y a 2-3 trucs qui font pas rêver, les araignées.
Oui, ah bah,
on en a quand même croisé 2-3 bien.
Moi j'ai pas eu le temps d'en voir.
C'est peut-être pas plus mal.
Oui, je pense.
Ça fait rêver aussi parce que j'ai vécu des... Enfin, moi, j'ai vécu... je crois que mon meilleur souvenir de l'Australie, tout confondu, c'est voyage en van pendant 10 jours où on a fait la Great Ocean Road et puis après, on est remonté dans un parc national vraiment tout petit, mais hyper, hyper, hyper chou. Et on est dans un camping et du coup, on vit dans notre van, on a une place de camping pour avoir de l'eau et de l'électricité. C'est la nuit et on dort dans notre van du coup. Et j'entends un bruit de respiration dehors, mais pas humain, tu vois. Je me dis, ok, méga chelou, qu'est-ce que c'est? Et on avait vu le soir, avant de s'endormir, quand c'est très typique en Australie, dans les campings, t'as plein de wallabies, donc la version minimoy des kangourous, qui se baladent pour récupérer de la bouffe que les humains ont laissée. Et donc je me dis, bon bah ça doit être des wallabies et tout, mais vraiment la respiration, on aurait dit un cheval dans mon oreille, quoi. Je me dis, putain, les wallabies c'est quand même vachement petit et tout, c'est pas le genre en plus à se rapprocher autant des vannes et tout. Et donc je décale le petit rideau de mon van, et là je me dis, ah c'est pas un wallaby city. ça fait 6 fois à peu près la taille d'un walibi. Et en fait, c'était un kangourou. Et en fait, on a ce truc. On est persuadé que des kangourous, on en croise tout le temps, mais en fait, c'est très très rare de croiser des kangourous en Australie. Tu croises des milliards et des milliards de walibis parce qu'il y en a partout, mais les kangourous, c'est la version vraiment l'évolution Pokémon, quoi.
Ouais.
Et je me retrouve face à un truc qui fait à peu près 1m80 de long et de large, parce que vraiment en termes de muscles, c'est un délire. Et qui est en fait autour de la zone où on mange, c'est-à-dire on avait des petites tables de camping et tout. Et qui cherche de la bouffe, forcément. Et alors au début, je me dis, putain, je vais pas lui faire peur, parce qu'on sait que c'est des animaux, on te prévient tout de suite quand tu rentres dans les parcs nationaux, c'est des animaux qui sont assez violents quand ils ont peur. Donc je me dis, bon bah, fais gaffe, tu vois. Je réveille Péton et je lui dis, regarde, c'est un vrai délire dehors. Et je lui dis, mais c'est dans ma tête, ça arrive vraiment. Et elle me dit, non, non, hyper impressionnant. Et en fait, c'est vraiment genre le corps d'un bodybuilder,
ouais.
Le haut du corps d'un bodybuilder, avec le bas du corps d'un walibi x14 et une queue avec une force, mes frères. Mais je me dis, la queue d'un kangourou, tu peux soulever la planète avec. Et du coup c'est hyper intrigant. Tu te dis, putain, on voit un vrai kangourou, enfin, on en a tellement entendu parler. Et tout doucement, j'ouvre la porte. Donc en fait, c'est les vannes où vous avez des portes sur le côté, là. J'ouvre la porte vraiment hyper doucement, en me disant, je veux pas lui faire peur, mais je veux quand même le voir. Enfin, c'est fou. T'as l'impression de voir un animal mystique, presque.
Ouais.
Et puis surtout, tous les gens avec qui j'avais échangé jusque-là m'ont toujours dit, tous les voyageurs en tout cas, m'ont dit, mais moi, j'ai jamais vu de kangourou, on voit beaucoup de walibi et tout. Et du coup, vraiment, j'avais l'impression d'avoir vu un animal mystique, une licorne. Bah, tu vois, c'est ça. Et du coup, j'ouvre la porte et tout. Et je vois que le kangourou m'entend, parce que bah, c'est pas discret, ils ont une ouïe de ouf, ces animaux-là. Et ils se tournent vers moi. Donc vers nous qui étions dans l'entrée de notre petit van là. Puis vraiment on avait un van, on avait loué, c'était un van du bled quoi. Vraiment il était rouillé, on savait jamais si on allait réussir à monter les campagnes. Donc je me suis dit, s'ils décident de charger, c'est foutu, on est mort. Et en fait le kangourou sent qu'on est très doux dans nos mouvements et du coup réagit hyper naturellement, comme un chien. C'est-à-dire que petit à petit il se rapproche de nous et il nous renifle. En mode, vous êtes des humains, j'ai compris, vous essayez pas de m'attaquer. Et donc petit à petit il se rapproche. Et là, je me retrouve vraiment nez à nez à genre un mètre d'un vrai kangourou. Et le truc me renifle et je dis à Péton, parce que tu sais que c'est des animaux qui ont tendance à vraiment vouloir être un peu intrusifs avec les humains parce qu'ils veulent de la bouffe. Et je me dis, s'il rentre dans le van, qu'il panique parce qu'il n'a pas la place et qu'il devient violent, c'est chiant. Donc petit à petit, on se recule un peu et pour voir s'il va avoir l'envie de rentrer. Mais vraiment, pendant 10 minutes, je me retrouve face à un vrai kangourou dans la nuit, donc vraiment, c'est un truc... Dans mon souvenir, c'est mystique, vraiment, il y a des petites lumières autour de lui, des petites lucioles et tout, genre, vraiment, c'est un peu mystique. Et je crois que ça reste mon meilleur souvenir, parce que c'est un vrai de vrai, quoi. Le truc fait 1m80, et tu te dis, un, il peut te tuer, deux, c'est incroyable, trois, vraiment, j'ai envie d'aller me mettre dans la poche de son bide, voir ce qu'il y a dedans. Donc, voilà, et je crois que c'était pour ça que je voulais voyager, en fait. Pour voir ces trucs que t'entends... Tu sais, t'as l'impression que c'est des légendes humaines. C'est un peu le monstre du Loch Ness, quoi.
Ouais.
Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Et c'est surtout ce truc de... T'es jamais aussi proche de la nature qu'à ce moment-là. Alors, t'as les moments moins fun où, du coup, par exemple, t'es un peu trop proche de la nature, genre, il y a des fourmis dans ton lit. Mais t'as vu un kangourou, quoi. Et rien que pour cette expérience-là, je repartirais 1000 fois. Qu'est-ce qui, toi, t'a marqué dans ton voyage ?
Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué dans mon voyage. J'ai eu des moments aussi de « Waouh, je suis en Australie !» qui ont été, voilà, quand je suis arrivée à Byron Bay et que j'ai vécu la plus grosse détente de ma vie en mode « Waouh, je suis à l'autre bout du monde, personne ne m'attend, personne ne compte sur moi. Je suis juste là, à la plage, et à me demander ce que je vais manger ce soir, et c'est ma seule responsabilité. » C'était vraiment absolument incroyable.
Bah moi, par message, j'ai découvert la version Bob Marley de Salomé.
Je l'avais appelée Salo Chill.
Salo Chill, oui, voilà, c'est ça.
Voilà, elle est restée là-bas. mais il y a quelque chose que je ne peux pas... Enfin, quelqu'un, du coup, que je ne peux pas ne pas mentionner quand je parle de mon voyage, parce que ça l'a profondément marqué. Ouais. C'est quelqu'un qu'on appellera Bob. Faut savoir que moi je partais du coup en Australie en mode célibataire, le crush de l'enfer, c'est terminé, merci, au revoir. Et j'y allais en mode bah voilà, il y aura peut-être des petites aventures, des petits trucs comme ça, très très détendu. Et donc ça fait à peu près ça fait une semaine et demie que je suis en Australie. J'ai fait donc une première semaine à Brisbane, Brisbane. Tout le monde me dit dans mon auberge, faut passer par Byron Bay. Byron Bay, c'est le truc, toi tu me l'as dit aussi. Et c'était, ça faisait pas du tout partie de mon trajet initial. Et donc je devais faire Brisbane, Sydney, Melbourne. Et du coup, je rajoute Byron Bay à cet itinéraire parce que voilà, tout le monde a l'air de me dire que c'est stylé. Je me dis, c'est quoi, on va y aller. À la base, je réserve 2 nuits en auberge de jeunesse. Et pour une raison que j'ignore, enfin du coup maintenant je me dis que ça a du sens, mon instinct me dit 2 c'est pas suffisant, reste 4 nuits. Donc je prévois du coup de rester 4 jours à Byron Bay et d'aller sur Sydney ensuite. Donc j'arrive à Byron, c'est trop cool, c'est la détente, c'est le surf, alors je sais pas surfer, hein, mais j'ai fait un cours de surf là-bas, mon premier cours de surf, j'étais nulle à chier, j'ai pas réussi à me mettre debout, mais il y avait des dauphins au fond, et c'est quand même impossible de dire, j'ai fait un cours de surf en Australie, il y avait des dauphins, et j'étais tellement détendue en sortant de ce cours de surf que j'ai vu un perceur, j'ai fait « Hey,
Percy !»
Donc du coup, je me suis fait percer, je me suis fait tatouer un koala. Enfin, bref, j'étais la version la plus détendue de moi. C'est-à-dire que moi qui overthink tout, là, j'étais en mode « J'ai envie, je fais. J'ai envie, je fais. » Et de ce « J'ai envie, je fais », mon dernier soir à Byron, je passe quasiment tout le temps que je suis à Byron Bay toute seule. Parce que j'ai envie d'être toute seule, je suis bien avec moi-même, j'ai l'habitude de voyager seule, du coup. Donc pour moi, c'est ok de passer ces 4 jours, tu vois, je discute un petit peu avec les filles de ma chambre, mais tranquille, quoi. Je vois qu'il y a des Français, je vois un blond qui se balade pieds nus dans l'auberge, j'entends qu'il parle français quand j'étais en train d'envoyer des messages à ma pote, mais vraiment, je suis pas dans un mood à sociabiliser. Donc je vois ce mec-là, juste, je vois cette personne, je sais qu'il est là. Et du coup, le dernier soir, je me fais mon petit solo date. Je vais dans un restaurant mexicain que je voulais absolument tester. Entre-temps, je rencontre des Australiens. Il y en a un avec qui je passe la nuit. Enfin bref, c'est vraiment... C'est vraiment l'expérience et je suis vraiment...
YOLO life, quoi.
Ouais, c'est ça. Je suis en folie quand je t'envoie le voyage. Tu devineras jamais ce que j'ai fait. Et vraiment, c'est comme ça que j'imaginais mon voyage, quoi. Et donc, le lendemain de cette folle soirée... je vais prendre mon car qui m'emmène à Sydney et ce fameux blond qui se balade des pieds nus est là et du coup on se sourit de loin parce que bah, tu sais, il y a un peu ce truc de
on s'est déjà vu
non, et je sais plus pourquoi, au moment où je soulève ma valise, un truc comme ça, il s'approche de moi pour me parler et il me parle en anglais et tu sais, je le regarde, je fais non mais je suis française, hein. Et tu sais, il y a un peu ce truc de ah bon. Et on discute, des banalités, tu vois. Et puis on monte dans le car et on en a pour 14 heures de car.
Quel enfer.
Voilà. Et du coup, on n'est pas assis à côté dans le car, mais on se retrouve en fait à discuter. Il y a des pauses toutes les 3 heures. Et je me revois discuter avec lui dans une aire d'autoroute miteuse. Il est 3 heures du matin, je viens d'acheter un Kinder Bueno, il n'y a rien qui a de sens. Et juste, j'ai aucune arrière-pensée, juste, voilà, il y a un mec sympa qui discute avec moi, et en même temps, comme j'ai passé beaucoup de temps toute seule, bon, voilà.
Un humain communique avec
un mec, c'est vraiment ça, genre, je suis en mode, bon, bah, on discute, il est sympa, j'apprends qu'il est étudiant, qu'il étudie sur Sydney, qu'il était en vacances, voilà, et moi, je dois lui dire 2-3 banalités sur moi, et puis on retourne finir notre trajet vers Sydney. On arrive à Sydney, on descend du car et on discute 2 minutes. Il me dit 2-3 trucs à faire dans le coin. Et il me dit ce truc de « T'as Instagram ?» bah oui, quand même. Donc on échange nos Instagram. Et c'est tout. Vraiment, c'est tout. Et il me dit « Bah moi, j'habite là. Salut, merci, au revoir. » Voilà, quoi. Et moi, je vais à mon auberge et c'est tout. Ça s'arrête là. Sauf que je sais pas pourquoi. Donc il est 6h du matin quand on arrive, quelque chose comme ça. Et toute la journée, je pense à ce mec-là. Mais encore une fois, aucune arrière-pensée, quoi que ce soit, juste, putain, il était sympa, et j'y pense. Et bon, ça reste 2-3 jours, sauf que, en fait, dans mon auberge, je rencontre personne, les gens sont pas hyper avenants, l'auberge est nulle à chier. Enfin, vraiment, je me sens pas bien dans cette auberge, je suis un peu dans le déni au début, et puis je finis par accepter que non, je me sens pas bien ici. En plus, je reviens de Byron, où je passais ma vie en tongs et en maillot de bain, et là, il fait un temps pourri, il fait froid, il y a du vent. Et du coup, je repense à ce fameux Bob, et je me dis, putain, il était sympa, et il habite là. Et bah tu sais quoi, envoie un message. Et vraiment, je n'ai jamais eu une voix aussi forte dans ma tête. Et Dieu sait que j'en ai des voix dans ma tête. Mais jamais dans ma tête, j'ai eu un instinct qui a crié aussi fort. C'était vraiment genre, envoie un message à ce mec, envoie un message à ce mec, envoie un message à ce mec. Donc bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un message à ce mec.
Cohérent.
Et je lui ai vraiment juste dit genre, hé, bonjour, j'ai pas d'amis, viens, on va boire un café s'il te plaît. Et donc il me dit, bah oui, pas de soucis, donc on se voit le 2-3 jours après mon message, je crois. On est arrivé le dimanche et on se voit le jeudi. Et on se retrouve, et moi je venais d'acheter des bottes et un parapluie parce que j'étais vraiment pas préparée pour ce temps-là. Et donc on se retrouve, et c'est hyper naturel, c'est comme si on était potes depuis hyper longtemps, alors que vraiment on a parlé 20 minutes dans un quart en pleine nuit, et c'est tout quoi. Et du coup on va dans ce café. Et du coup, on discute de plein de trucs. Je raconte ma vie comme d'habitude, parce que comme je l'ai déjà dit, moi je raconte ma vie à les inconnus.
C'est
donc,
le principe.
Donc on se raconte plein de trucs. On discute. Il me laisse goûter dans son assiette pour goûter les gâteaux. Bon point, tu vois. Je me dis,
Ah, chez Salomé, ça veut dire amour, hein.
Et voilà, on se balade un peu. Et c'est trop cool. Et vraiment, mon mood change directement. Je suis passée de « Oh, c'est nul, pourquoi je suis venue jusqu'ici ? J'aurais dû aller vers le nord parce qu'il faisait plus beau, putain, Sydney, j'ai fait un tour bruit. » Ah, oh, putain, c'est trop bien, j'adore, mais c'est « Oh, vraiment ?» Et j'ai passé un super après-midi, c'était trop cool. Et du coup, je le raccompagne jusqu'à chez lui parce qu'il avait cours en visio. Et il me dit « Bah, si tu veux, on se revoit ce soir. » Et moi, je suis en mode « Bon, de toute façon, j'ai rien prévu, allons-y gaiement. » Mais je suis toujours dans ce truc, je ne sais pas. Vraiment, j'ai passé un bon moment, il est hyper cool, mais je suis dans un... Bah tellement, c'est même plus du jour le jour à ce moment-là, c'est du minute par minute, tu vois. Et donc je le rejoins chez lui, et on boit des coups, on discute, et je me revois t'envoyer des messages à toi, et enfin sur la conversation « Les fragiles de l'amour ».
C'est nous.
Et dire, bah les gars, je sais pas s'il est intéressé ou pas, vraiment, je sais pas. On discute et tout, mais je suis pas sûre. Puis vous êtes un peu mode « Salomé, t'es chez lui, vous êtes en train de boire ».
Soum, t'es dans sa chambre, on y va quoi.
Jusqu'au moment où effectivement il me dit, bah pour pas déranger les colocs, on va aller dans ma chambre. Et tu sais, je commence à me dire, genre, il allume les LED dans sa chambre et tout. Et je vous envoie cette fameuse photo incroyable de ma tête de les gars, je crois qu'il se passe quelque chose en fait.
Bah déjà, les LED, ça aurait quand même dû t'orienter, les LED rouges. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment,
Finalement, il s'avère que si, il y avait quelque chose.
Ouais.
Et sauf que moi je me dis, bah ça va être comme la semaine dernière avec l'Australien, c'est-à-dire qu'il va me dire, bon bah salut, merci, bonne soirée, on se revient quoi. Et je me souviens, il s'approche de moi et tout naturellement il me dit, bah tu restes dormir du coup. Et tu sais, il y a vraiment un truc en moi qui fait genre, ah bon ? Ah bon ? C'est une possibilité, quoi ? Et du coup, je suis restée dormir. Et en fait, j'ai changé d'auberge le lendemain et j'ai dormi dans cette auberge-là une seule nuit. Mais du coup, j'ai passé, bah oui, 9 des 10 nuits qui me restaient à Sydney. Chez lui. Et c'était, en vrai, c'était ouf parce qu'on a vécu ce que tu vis dans des débuts de relation en 3 mois. Nous, on l'a vécu en 10 jours. Mmh. On a été au resto, on a été au cinéma, on a été au Blue Mountains, on a fait des pâtes.
Et puis il t'a emmené, enfin il est venu avec toi sur le concert de Taylor Swift. Oui.
Franchement une des meilleures soirées du voyage, et c'est une des plus marquantes aussi. C'est que ce qui est drôle, c'est que j'écrivais quasiment tous les jours dans mon carnet. Et tu vois, au début, je suis en mode « Ah, j'ai rencontré quelqu'un, il est cool, bon, tout va bien, c'est vraiment juste, c'est un petit truc de vacances. » Et au fur et à mesure, tu sens dans mon écriture que c'est « Bon, en fait, j'aime bien, mais ça va aller. » Tu sens que vraiment, je vrille et que ça finit par « Ça va être dur de repartir, dis. » Et sur les derniers jours, donc je partais de Sydney le dimanche pour Melbourne, et je sais pas, à partir du vendredi, je commence à sentir que je gère plus du tout, parce que quand je le regarde, toutes les Salomé dans ma tête, et il y en a beaucoup, quand je le regarde, elles font toutes genre « Je t'aime !» Sauf que moi, je suis en mode « Alors ma cocotte, tu le connais depuis 10 jours, il est plus jeune que moi, parce qu'il a 5 ans de moins que moi, je me dis « Je vais juste le faire flipper, enfin, tu prends tes petits sentiments, tu les ravales, tu les mets dans ta valise, et puis tu t'en vas avec, et tu lui dis jamais, et enfin, surtout que, enfin, voilà, moi, je suis vraiment dans ce truc de, ça fait 3 ans que je suis célibataire, c'est des mots que je ne dis plus. Et donc, je suis en mode, contrôle-toi. Et donc, on passe cette soirée, incroyable, on va voir le concert Candlelight Taylor Swift, donc, c'est quand même méga romantique, il y a des bougies partout, du violon qui joue du Taylor Swift.
Ah bah oui.
C'est absolument magnifique, on va manger au restaurant, on passe une très bonne soirée, et on rentre chez lui. Et en fait, une scène de film, moi je suis en train de te parler par message, je suis allongée sur le lit, vraiment, je le calcule pas, oui, tu sais, c'est ce truc où chacun fait son truc, quoi. Et en fait, j'entends dans mon oreille droite la phrase « Je brûle d'envie de te dire les trois mots qui foutent la merde ». Et là, je me fige, parce qu'il y a une partie de moi qui est en mode « les gars, vous avez entendu, c'est réciproque, eh ?» Et en même temps, terrorisée, parce que j'avais pas prévu ça. Enfin, c'est pas gérable. Donc je bug, je réponds, moi ça me donne des crises d'angoisse.
Un peu trop honnête.
Et du coup, il y a toutes les autres salomées dans ma tête qui sont en train de faire des ronds et en train de dire, rattrape le coup. Et je finis par dire, genre, mais ça m'a traversé l'esprit aussi. Et on s'arrête là, on n'en parle pas. Et le lendemain, c'est ma dernière journée, je pars à 17h. Et toute la journée, je me dis, Salomé, t'as bossé pour ça. Je veux dire, ta thérapie, tout ça, tout ce que t'as accompli pour toi, c'était pour pouvoir être capable de dire ces mots-là à nouveau. Et toute la journée, je me dis, faut que je lui dise, faut que je sois capable de lire, faut que je lui dise. J'arrive pas. Moment, chaque fois, je suis genre, non. Et je finis par l'écrire sur une petite feuille que j'ai arrachée à mon carnet. Et je lui glisse dans la poche en montant dans le car qui m'emmène à Melbourne, en lui disant au revoir les yeux pleins de larmes, parce que j'adore les scènes dramatiques.
Ce que j'allais dire, vraiment, on est sur une scène de film, là.
Ah mais oui, mais j'ai vécu un film.
Oui.
Et du coup, je pars comme ça, et je reçois dans le car un « Je t'aime aussi ». Et j'ai pleuré tout le long. Bon, j'exagère, parce qu'il y avait quand même 12 heures de car pour aller jusqu'à Melbourne, donc voilà.
Mais par intermittence, on y est presque.
Ah, je pense que la gamine à côté de moi est en train de dire « Mais qu'est-ce qu'elle me fait, la frangine, là, à côté ?» J'ai pleuré. Et donc, j'allais pour 15 jours à Melbourne, mes 15 derniers jours en Australie. Et bah, on se parle toujours par message, on s'appelle, on se fait des vocaux, etc. Mais je vis pas hyper bien mon arrivée à Melbourne, et pourtant, c'est une des villes, j'en ai pas fait beaucoup. Mais Melbourne, c'est là où je me suis sentie le mieux, je pense, c'est là où je me voyais m'installer, tu vois. Mais forcément, c'est dur parce que je suis hyper frustrée parce que je suis encore sur le même continent que lui. Je suis pas si loin que ça parce que bientôt je serai très 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 loin. Et en même temps, on est quand même à 12 heures de car l'un de l'autre et que c'est terminé quoi. Et en fait, sur mes derniers jours à Melbourne, donc je partais le dimanche, le jeudi. Encore une fois, l'instinct de malade, parce que quelques jours avant, j'avais voulu réserver, ce dont tu parlais à la Great Ocean Road, j'avais voulu réserver une excursion pour le jeudi. Et j'avais plus beaucoup, beaucoup de sous jusqu'à la fin de mon voyage, donc je pense que ça a joué aussi, mais vraiment, ça faisait partie des choses que je voulais faire absolument. Et mon instinct, mais vraiment, j'avais juste à cliquer sur « Valider », et j'avais mon excursion qui partait à 6h du matin jusqu'à 20h le soir. Et j'ai pas réservé. Mon instinct m'a dit « Non, réserve pas. » J'ai pas réservé. Et donc ce jeudi matin, donc à 3 jours de mon départ, je me lève pour aller chez le coiffeur parce que je suis en mode « Je suis déprimée, de toute façon, non. » J'étais vraiment dans un mood horrible, je sociabilisais plus du tout. J'étais en mode « De toute façon, je me casse bientôt, ça sert à rien. » Donc je descends pour aller à mon rendez-vous chez le coiffeur, mes écouteurs dans les oreilles en mode « Je ne parle à personne, de toute façon, je vais bien avec moi-même. Je connais mes petits coins préférés à Melbourne et je fais ma vie. » Et donc je descends juste remplir ma gourde dans la salle commune de l'auberge de jeunesse et je sens une main derrière mon dos. Et je me dis « Bah ça doit être la fille que j'ai rencontrée il y a 3 jours qui est revenue parce qu'elle changeait d'auberge. Bon, » voilà. Et je me retourne, et c'est Bob. Il m'a fait la surprise, du coup, de me rejoindre pour mes 3 derniers jours en Australie. Et ce qui était hyper drôle, c'est que lui, du coup, connaissait pas Melbourne. Et c'est moi qui lui faisais visiter mes coins préférés que j'avais découverts les 10 derniers jours. Et c'était ouf, on a réservé une chambre d'hôtel qui avait une vue incroyable sur les buildings. On a été, encore une fois, on a été au resto, on a mangé, on s'est baladé. Enfin, c'était ouf. C'était ouf, et j'oublierai jamais ça. Enfin, c'était incroyable de pouvoir vivre cette expérience-là. Et du coup, on a pu se dire les mots qui foutent la merde en face à face. Et c'est important pour moi d'en parler parce que ça va vraiment avec cette notion d'instinct et de légèreté que je recherchais vraiment dans ce voyage. C'est que j'ai appris à pas me prendre la tête parce qu'il y a un peu ce truc de tout est plus intense en voyage. Parce qu'effectivement, maintenant, il dure plus.
C'est comme dans les Marseillais.
Non mais quand tu y repenses, tu dis ça a aucun sens de dire je t'aime à quelqu'un que tu connais depuis 10 jours. Lui, il a fait 12 heures de car pour rejoindre une nana avec qui connaissait à peine. Il y avait rien de sensé, ouais. Mais juste c'était de l'instinct, c'était du pur. J'ai envie de faire ça, je le fais. Et c'était incroyable. Et ça, c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie, je pense.
Aujourd'hui, c'est sûr.
aujourd'hui, on n'est plus en contact parce que pour me réancrer dans ma vie, je ne pouvais pas, même amicalement, garder cette relation. C'est trop compliqué parce qu'il est à 17 000 km, parce que moi, j'avais besoin de me réancrer dans ma vie ici, que son rythme de réponse n'était pas le mien et que moi, ça me faisait du mal. Mais je suis hyper en paix avec ça parce que bah, je me dis comment ça ternit pas ce qu'on a vécu. C'est-à-dire qu'à essayer de maintenir le truc, je pense que ça aurait pu finir par ternir un peu cette image.
C'est sûr.
Et que voilà, après, comme a dit une grande dame, my thoughts will echo your name until I see you again. Donc,
grande dame.
je dis pas que je me souhaite pas de le recroiser un jour, juste boire un café avec lui et manger dans son assiette, tu vois. Mais pour l'instant, c'est juste un souvenir incroyable. Et ça, ouais, ça m'a vraiment reconnecté à mon instinct. Ça m'a fait me dire, ok, des fois, t'écouter, c'est la bonne chose à faire, même si t'as des idées un peu saugrenues. Et surtout, ça m'a redonné un peu foi en l'amour. Hein. Dans le sens où, tu sais, ça fait 3 ans que t'es célibataire et t'es un peu en mode, bah, est-ce que du coup j'ai des standards inatteignables et
est-ce que je suis juste lovable?
Non, mais au-delà de ça, ça m'a fait me dire, ok, ça existe. Genre, ouais. ce que j'attends, ce que je mérite, ça existe. Alors, ça existait pendant 15 jours, du coup. Je mime toujours des vomissements devant les pubs de Saint-Valentin, hein, mais je suis quand même un peu moins aigrie. Un petit peu. Et c'est quelqu'un que je trouve incroyable. Et enfin, je trouve que le voyage, c'est ça aussi, tu vois. C'est ce genre de rencontre de quelqu'un que t'aurais probablement même pas calculé dans ta vie de tous les jours. Et ce mec de 20 piges a changé tellement de choses pour moi en si peu de temps. Donc voilà, c'était une longue histoire pour parler de Bob, mais ça méritait d'être partagé, je pense.
C'était important pour toi de le partager, de toute façon.
Oui, bah parce que ça a été hyper important dans mon voyage.
Bah,
je peux pas mentionner l'Australie sans mentionner Bob. Pas possible.
C'est une évidence.
Je te rejoins complètement sur la notion de rencontrer des gens que t'aurais jamais rencontrés autrement. Moi, j'ai eu l'occasion... Alors, au début, je l'ai vécu comme un malheur, mais en fait, ça a été incroyable, de vivre un confinement un peu particulier, puisque j'ai fait un confinement à 80 personnes dans une auberge de jeunesse. Ce n'est pas le cas de tout le monde.
Ah non.
En gros, si je dois être très concise, c'était 3 maisons, 80 jeunes de 18 à 30 piges, bien trop de bières pas assez chères, et puis des films d'horreur tous les soirs, des dizaines de milliers de gâteaux faits parce qu'en fait on n'avait rien d'autre à faire. Pas beaucoup d'intimité, hein, forcément. Une salle de bain sur l'étage où j'étais, on était une salle de bain pour 12 meufs.
Oh la vache!
Voilà. Mais en fait, au début, voilà, ils annoncent le confinement, on ne peut pas rentrer en France, machin. Donc moi, c'est panique à bord, mon Dieu, mais la vie, mon Dieu. Et puis en fait, 3 semaines plus tard, j'avais l'impression d'avoir créé une nouvelle famille, quoi. J'ai découvert des langues que j'avais jamais imaginées, des habitudes et des plats de plein de pays que j'avais jamais imaginées. On s'est mis à créer plein de petites routines, en fait, avec le groupe avec lequel je passais plein de temps. On faisait des jeux de cartes, on faisait des puzzles. J'ai cru que j'allais mourir à force de faire des puzzles en regardant les School Musical. On s'est relancé, tout chacun avait une série un peu doudou, donc on se laissait tous partager. Et du coup, on faisait des mix de séries. Je me suis teint les cheveux sur un banc dans un jardin entre deux potes à moi qui s'y sont mis moitié de la tête. Du coup, c'était jamais pareil sur mes cheveux. Enfin, c'était incroyable. Et j'ai créé humainement, en fait, tu te retrouves à créer des relations basées uniquement sur la personnalité de la personne en face. Tu t'entables de ce qu'elle fait dans la vie, tu t'entables de la richesse que quelqu'un peut avoir, tu t'entables de l'environnement dans lequel tu la rencontres. Tout ce qui reste, en fait, à la fin, c'est ta personnalité, avec le bon et le moins bon, puisque, bah, en fait, t'assistes à tout. Moi, j'ai développé des amitiés avec une nana de République tchèque et une nana de Finlande qui m'ont changé la vie et qui me manquent beaucoup parce que forcément quand tu passes avec Barbara ça a duré 4 mois, avec Anna ça a duré 6 mois où il n'y avait pas une minute dans la journée on n'était pas ensemble, par la nuit et encore j'ai vécu bien trop de nuits avec ces dames m'emmerdant et c'est des sœurs toute ma vie quoi. C'est la première fois où je me suis dit probablement que le voyage a changé ma vie. Et puis après, il y a eu la vie en van qui, moi, m'a transformée. Quand on est arrivé en Australie, de base, je voulais absolument pas faire de voyage en... Enfin, je voulais faire le voyage en van pour la photo Instagram qui va avec, tu vois. Et je me disais, s'il y a autant de gens qui le font, c'est que forcément, c'est cool. Et... Mais j'appréhendais de fou parce que moi j'aime bien mon confort, j'aime bien avoir accès à des chiottes, avoir accès à une douche, j'aime bien me dire que je sais où je dors, que c'est propre, que c'est clean, qu'il n'y a absolument aucune araignée et serpent qui peuvent rentrer dans mon endroit où je vais dormir. Et du coup, un peu la panique, moi je me considérais pas comme très très route et en fait je me définissais comme quelqu'un qui était proche de ses affaires, tu vois. Et du coup, on loue un premier van, le fameux van du coup du kangourou, où un van mais rouillé quoi, un van des années 70 qui était en fin de vie. On nous l'a annoncé comme ça et c'est pour ça qu'on l'a eu à un prix intéressant, mais vraiment on l'a loué pendant 10 jours. Et donc on loue un van tout petit avec une cuisine miteuse et tout. Et tous les jours, faut faire, refaire et défaire le lit, remettre la table et machin et tout. Et au début, je me dis, je vais jamais supporter. Vraiment dès le début, je dis à Pédon, tu sais quoi, je le sens pas. Viens, on réserve des auberges de jeunesse et juste on roule avec et on mange le midi et c'est cool, tu vois. Et elle insiste, elle me dit non, attends, on a dit qu'on vivait la van life, on vit la van life, tu vois. Et donc je dis ok, c'est quoi, je rentre dans le mood. Et donc on met de la musique à fond, on roule, elle apprend à conduire à gauche. Attends, où est-ce qu'on conduit? Bref, à l'envers. et moi, à l'époque, je n'avais pas mon permis, donc je n'étais d'une aucune aide. Et du coup, on découvre des paysages de ouf. Et en fait, en Australie, en Nouvelle-Zélande, tu peux à peu près dormir dans plein d'endroits. Et on s'est mis à dormir sur la plage, bon, à rester embourbé dans le sable, et du coup à devoir appeler une dépanneuse, mais à dormir dans la plage, à dormir dans des endroits incroyables, et en fait, tu te redécouvres complètement. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que de base, toutes les valises qu'on avait et tout, j'ai tout mis dans des box au fond du... En gros, c'est tout est construit en mode dépliable, c'est-à-dire que t'as tes bagages, t'as une chaise, t'as la... l'eau que t'es censé utiliser pour faire ta vaisselle, tout dans, dans la même boîte. Et là, en fait, j'ai mis toutes mes affaires qui étaient du surplus, en fait, au fond des box. Et j'ai dit, tu sais quoi, je vais vivre dans deux leggings, un pull, trois t-shirts, et ce sera basta. Et tu passes en mode route, quoi. C'est comme si toute ta personnalité, tu la démantelais, tu recommençais à zéro. Et là, tu découvres le truc... alors, pas prendre de douche, un peu violent. Mais tu te réveilles sur la plage, tu déplies tes petites chaises de camping le matin pour faire ton petit café, tu rencontres des vieux... Ah, mais qu'est-ce que c'était drôle! Le nombre de retraités qui ont acheté un van et qui vivent en van, mais en mode hippie, leur van, c'est incroyable. T'as des home studios, t'as des jacuzzis, enfin, c'est un délire monstrueux. Et puis, donc ça, c'était la première partie en Australie. Puis après, on reloue un van après le confinement en Nouvelle-Zélande. Et là, on part à trois. On décide de partir avec ma pote Anna. Et donc déjà, on sait qu'on aura moins d'intimité parce qu'on est trois et parce qu'on se connaît pas... Enfin, on se connaît très bien, mais on se connaît pas autant que ce que je me connaissais dans mon couple. Donc c'était un peu différent. Et puis en fait, au fur et à mesure des aventures, on récupère des copains sur la route. On finit à 5 dans un van pour 3. À dormir, rouler en boule dans un petit carré, machin. À respirer la respiration des autres. C'était super, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai ri, quoi. Tu roules, tu t'arrêtes pour faire un plouf dans la plage, tu repars... ça pique, donc tu te dis qu'il faut que tu trouves une source d'eau propre, donc tu finis à te baigner dans une fontaine au fin fond du trou du cul d'un parc national ou dans une cascade d'eau propre. Enfin, tu défais ton lit toutes les 5 minutes, tu manges des pâtes pas cuites parce qu'en fait t'as pas assez de gaz, et du coup tu paniques et tu dis mais putain, mais ça se trouve la voiture elle va jamais redémarrer, on va mourir. Enfin, pff, qu'est-ce que c'est drôle. Et puis, j'ai vécu probablement ma plus grosse honte et plus gros kiff de toute ma vie mélangés en même temps. On est en voyage dans l'île du Sud, en Nouvelle-Zélande, et on est sur ce qui est réputé pour être un des plus beaux spots pour voir le coucher de soleil et le lever de soleil. On arrive trop tard parce qu'on est des branquignoles pour voir le coucher de soleil, mais on se dit par contre demain matin, lever méga tôt pour voir le lever du soleil, prendre des photos, machin et tout. Et en fait, on est sur un camping qui est sur tout le long d'une falaise. Et on se met au plus haut, tu vois, meilleure vue, machin. Sauf que je tilte que les toilettes du camping sont tout en bas de la montagne, c'est-à-dire à 3 km. Donc autant te dire, flemme. Et on savait que pour ce qu'on appelait les urgences, on avait des toilettes portatives, qu'on s'était promis de ne jamais pisser dans le van quand il y avait des gens dedans, et du coup on le sortait dehors, mais en fait tu t'en tapes, t'es dans la nature, t'es en mode route quoi. Sauf que là, on est sur un parking, et donc je me dis, bon bah voilà, on ira pisser demain matin, on prendra la voiture, on reviendra pour faire les photos, on s'en fout. Et donc je me réveille, il est genre 5h30, le soleil commence à se lever, c'est magnifique, c'est rose et tout, c'est incroyable. Sauf que j'ai envie de pisser quoi. Et tout le monde dort et je me dis, bon bah, soit je romps mon pacte et je pisse dans le van avec les filles. C'est pas possible, mon honneur vaut plus que ça. Et je me dis, bah ma chérie, soit tu fais 3 km. Et là je vois que, en fait, ce qui m'a réveillée, j'entendais du bruit, mais je me disais, bon bah, il y a du vent, enfin, on est en haut d'une montagne quoi. Et en fait, j'ouvre les rideaux et je me rends compte qu'on est au milieu d'une tempête de sable. Donc, zoomer. Donc, autant te dire que faire 3 km dans une tempête de sable à 5h30 du matin, tu ne le fais pas. Donc, il ne me reste plus qu'une option. C'est de prendre ce qu'on appelle le porta potty, qui sont les petites, en gros, c'est un pot de jambe, quoi.
Ouais.
Que je me dis, bah, du coup, est-ce que tu romps ton pacte? Je me dis, tu sais quoi, tu es une femme forte, tu vas aller pisser dehors dans la tempête de sable. Et donc, je prends ma putain de toilette portative, je la pose dehors. Et tu te mets le cul à l'air dans une tempête de sable, quand même, entouré de plein de vannes différents. Parce que du coup, on est, franchement, spot hyper touristique, ouais. Il y a un max de monde, tu vois. Mais il est 5h30 et je me dis, au pire, on verra mon cul. Pas non plus, voilà.
Ouais, des fois, l'envie de pisser fait que tu t'en bats les couilles.
Ouais, hein. Et puis à ce moment-là, vraiment, t'es en mode route, on a pas rien à battre. Limite, tu vis nu et t'es là, genre. Non, c'est pas une bonne idée. Et sauf que, en fait, t'es dans ce truc, vraiment mentalement, t'es dans une tempête de sable. Donc vraiment. Littéralement, je suis rentrée après dans le van, j'avais des griffures de sable sur la gueule, c'est te dire le délire, tu vois. Et là, t'as le cul à l'air. Donc le sable, ça griffe ton cul. Et du coup, je me déshabille et tout. Et puis en plus, tu sais, on dormait, il faisait froid, donc on dormait dans des trucs, des maxi-couches et tout. Bref, un enfer pour pisser, ça c'était sûr. Et je me dis, Charlotte, trouve-toi du courage, tu vois. Et la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est me mettre à hurler en chantant. Je chantais, je fais pipi dehors dans une tempête de sable, un truc comme ça, tu vois. Mais je me mets à hurler ça, mais à plein poumon. Et je me dis, dans la tempête de sable, personne n'entendra. Au bout de 30 secondes, je vois les volets de tous les vannes autour de moi qui sont... Et tout le monde qui explose de rire. Et j'entends Pétone rire dans le van. Et ma pote Anna aussi qui explosait. Mais vraiment, je les entends rire. Et je tilte pas, moi, sur le moment.
Tu vois,
moi,
je suis en train... T'es vraiment cul nu, là.
Ah, je suis cul nu en train de pisser au milieu du camping, tu vois. Et dans la tempête de sable, sous un super soleil, tu vois. Et je vois pas que les gens me voient, tu vois. Moi, je ne tilte pas, je suis concentrée sur mon truc. Il y a du sable dans ma gueule, tu vois. Et je continue de chanter, mais fort. Jusqu'à ce que je rentre dans le van. Je savais que les filles, je les avais entendues rire, donc je me disais qu'elles m'avaient entendue. Mais bon, je me disais, elles rient juste parce que je chante dehors, quoi. Je rentre dans le van, elles sont mortes de rire. Et ma pote Anna me dit, mais t'es consciente que tout le monde t'a entendu? Je lui dis, mais trop pas, il y a un max de bruit, tempête de sable et tout. Elle me dit, ouvre le rideau. Et là, j'ouvre le rideau. Et t'avais vraiment tout le camping en train de se taper une méga barre de ma gueule. Donc, je me suis moi aussi mise à rire parce que en fait, c'est tout ce que tu peux faire quand tu arrives à ce genre de situation. J'ai enlevé le sable que j'avais dans l'arrêt et on est reparti, hein, voilà. Mais c'est un de mes meilleurs souvenirs et j'ai une photo incroyable du lever de soleil. Alors bon, j'aurais peut-être dû mettre marée du cul dessus, ça aurait fait un joli petit portrait. Mais c'est un de mes meilleurs souvenirs parce que en fait, ça représente vraiment la vie en Australie. T'en as rien, enfin en Australie, en voyage en fait, t'en as plus rien à foutre.
Non, mais c'est clair.
Et c'est incroyable. Enfin, moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est vraiment le principe même de la liberté, sous tous les aspects.
Mais c'est clair.
Et que, en fait, en voyage, t'es tellement détendu que l'inhibition que tu peux avoir en France, elle est complètement, complètement off, quoi.
Ah, mais c'est clair.
Et j'aurais trop. Enfin, un de mes objectifs quand je suis rentrée, c'était de me dire, fais ça, garde ça.
Ouais.
C'est très compliqué.
C'est compliqué.
Tu l'as bien vu. Mais moi, c'est ce que j'aurais voulu garder, mais c'est après, ça dépend aussi de comment se passe le retour en France. Ouais. C'est pas toujours simple. Je pense que tu peux confirmer.
Clairement. Mais je veux juste revenir sur un truc, c'est que ce que tu dis sur cette un peu découverte de ton toi en voyage, c'est que moi, c'est pareil. Je suis quelqu'un qui est quand même assez attaché à son confort. J'avais à cette époque-là, depuis 3 ans, 53 mètres carrés pour moi toute seule.
Bah oui,
j'appréhendais un petit peu et en fait j'ai adoré l'expérience de vivre en auberge de jeunesse. J'ai pas fait le van, Mais pour le coup, j'ai eu l'impression d'être en camp de vacances pendant 2 mois. Et je me suis rendu compte que j'aurais pu faire ça 6 mois supplémentaires. Et pourtant, tu partages ta chambre, t'as pas d'intimité. Oui. Les douches, des fois, c'est à peine propre. Enfin, clairement, et pareil que toi, je me suis dit, mais j'en ai beaucoup trop de trucs, en fait. Et tu te rends compte à quel point t'as pas besoin d'autant et que tu te contentes de finalement peu parce que pour l'aventure que tu vis, pour tout ce que tu vis là-bas, bah en fait, ton confort, il est pas si important que ça.
Mais la notion matérielle, elle est hyper intéressante en voyage parce que t'es vraiment pas dans le même environnement et tu te rends compte que t'as besoin de rien. Et ça, c'est un peu comme la notion d'inhibition. Quand je suis rentrée en France, je me suis dit, tu vis ton appart et tu arrêtes de garder n'importe quoi.
Ouais.
Flash forward tout maintenant, où je garde le moindre petit truc pour être sûre de ne pas manquer. Mais c'est hyper rigolo comme là-bas, tu te rends compte que vivre avec un pull et un fut, ça suffit quoi.
C'est clair.
Tant que t'as des bonnes chaussures pour pas te faire mordre par des serpents, après, Inch'Allah. Hein.
Mm. Mais c'est vrai que bon, garder cet état d'esprit quand tu reviens en France, c'est hyper compliqué. Moi, celle au chill.
Elle est restée là-bas. Quoi.
Elle est toujours à Byron Bay. Hein. J'ai essayé d'en garder un petit peu quand même, mais j'en retrouve un peu. Maintenant que je me suis un peu réadaptée à ma vie en France, mais c'est vrai que le retour, et pourtant je suis pas restée très longtemps, hein, je suis partie que 2 mois, même pas, mais quand je suis revenue, j'ai eu un profond rejet de ma vie ici. Déjà, je suis revenue dans un appartement que je connaissais très peu, puisque j'ai emménagé dans mon nouvel appartement mi-août, et je suis partie mi-septembre. Donc du coup, j'avais pas eu le temps de prendre mes marques ici. En plus, je suis revenue dans un contexte de tu laisses quelqu'un que t'aimes à 17 000 km, c'est pas ouf. Et j'avais envie de pleurer, mais en permanence. Mon boulot, qui était toute ma vie avant de partir, enfin vraiment, ça faisait 3 ans que je m'identifiais en tant que chargée de communication. C'était toute ma vie, j'adorais mon taf. Et je suis vraiment partie en disant à tout le monde, je pars 2 mois, tranquille, tu vois.
Tu me l'as répété tellement de fois, cette phrase.
Mais quand j'y repense, j'ai envie de me foutre des baffes, parce que vraiment, tout le monde disait, Salomé, quand je suis arrivée en Australie, quand j'ai dit aux gens de l'auberge à Brisbane que j'ai dit que je restais que 2 mois, ils disaient, mais ça va pas, enfin, tu vas vouloir revenir, tu vas vouloir rester. Et moi, j'étais en mode, non, mais vraiment, j'aime ma vie en France, j'aime mon travail, je viens d'acheter un appartement, ma vie, elle est là-bas, ça va être une parenthèse. Foutaise. Et quand je suis revenue, du coup, mon travail n'avait plus trop de sens. Et j'ai eu vraiment ce rejet de « je suis pas au bon endroit, en fait ». Les fêtes de Noël ont été horribles. J'étais là, entourée de ma famille, qui était hyper contente que je sois là. Et moi, j'avais juste envie de chialer et envie de dire « mais je suis désolée, mais moi, j'ai pas envie d'être là ». Je culpabilisais et je me sentais ingrate, en fait. J'ai des gens qui m'aiment ici, des gens qui sont heureux de me voir revenir. Et moi, je suis même pas capable de leur donner ça. Parce que c'est hyper particulier, parce que toi, tu arrives dans un endroit où de toute façon ton entourage n'a pas sa place de base. Donc ils te manquent pas de la même façon que toi tu peux leur manquer. Parce que toi tu laisses un vide. Eux, ils sont pas dans cette vie-là de base. Donc du coup, j'ai eu un vrai rejet de ma vie ici. Et là, au bout de 3 mois maintenant de retour, ça va mieux. J'ai des nouveaux projets. J'ai lancé un podcast, ça skip. J'ai pris mes marques dans mon appartement, je vois quelqu'un et je parle pas d'ainsi cette fois. Enfin vraiment, je me réapproprie cette vie parce que j'ai pas le choix en fait. Je suis plus dans le rejet, je suis dans l'acceptation de ok, je suis revenue, mais je sais que je vais repartir, mais je veux pas que cette période où je suis là, ce soit une salle d'attente. J'ai besoin de vivre des choses. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur ce truc de garder la personne qui était là-bas. J'essaye de reprendre ça aujourd'hui, de me dire là-bas j'étais en mode rien n'a d'importance, on s'en fout de tout,
YOLO,
voilà, et j'essaie de regarder ça ici, tu sais quoi, tu sais que tu restes pas, rien n'a d'importance non plus, donc vis toutes les expériences, dis oui à tout ce qu'on propose et essaye de retrouver un peu le salaud chill parce qu'elle me manque un peu quoi.
Ouais, t'es sympa ton chef.
Ouais,
mais le retour, c'est, enfin moi je m'étais renseignée sur le retour avant même de partir, c'est pour te dire le niveau d'anticipation, mais quand je suis partie, je me suis dit mais putain, ça doit être hyper dur de revenir en fait, de reprendre ta vie après avoir vécu un truc si différent. Et effectivement, je m'étais pas trompée, moi le retour c'était dur parce que c'était pas mon choix, enfin pas vraiment. La Nouvelle-Zélande avait toujours te laisser sortir du pays, mais ne te laissait toujours pas rentrer des gens. Donc, ils nous avaient proposé un second visa, une seconde année de visa pour travailler là-bas, pour du coup continuer à avoir des petits ouvriers, quoi. Et au moment où on nous annonce ça, ma copine de l'époque me dit « Moi, je veux rentrer. Ma famille me manque et je crois que j'ai envie de rentrer pour reprendre mes études, pour bosser, pour reprendre sa vie. » Et à ce moment-là, j'ai un choix à faire, c'est-à-dire soit je la laisse rentrer seule et je reste seule aussi, ce qui pour moi annonçait la fin de notre relation, soit je rentrais avec elle, un peu à contre-cœur. Mais ça, je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Sur le moment, j'ai juste dit ok, tu veux rentrer, rentre.
Ouais. C'était ton couple. Hein.
Bah voilà, moi ça a toujours été ma priorité et elle était ma priorité, donc bah ça, j'ai même pas réfléchi. Je me suis rendu compte que quelques mois après qu'en fait, si j'avais été seule, j'aurais pas pris la même décision. Du coup, on rentre à deux, mais on rentre dans une période où c'est encore le Covid en France. Donc moi, je découvre le port du masque, qu'on n'a jamais porté en Nouvelle-Zélande. Je découvre les protocoles, les machins, les trucs. Et déjà, avec le retour, c'est difficile, mais tu rentres en plus dans un environnement où vraiment ouais. Tout est bloqué, quoi.
Et en plein hiver, en plus.
T'as pas le droit de sortir. Ah ouais, non, bah alors on est passé de l'été full, où tu peux pas rester au soleil 4 minutes parce que sinon tu fonds, à le froid, quoi. Mais ça, à la limite, moi, ça me dérange pas trop. Ce qui a été le plus dur, c'était vraiment de revenir à toutes les restrictions françaises,
ouais.
Plus les restrictions du Covid. Et là, je me suis dit, mais alors, par contre, je vais exploser. Et du coup, en fait, tu veux revoir tes proches, mais il y a des protocoles en place tout le temps. Il y a un couvre-feu, donc tu peux pas faire de soirée. En fait, tout ce que t'as envie de refaire en rentrant, tu peux pas le faire.
C'est vrai que, pour l'anecdote, on s'est retrouvés, nous, Place Royale à Nantes,
à 18h un soir, ouais. Pendant une heure avant le couvre-feu.
Et on a bu dans des canettes sur des marches.
C'est ça.
Et on n'a pas pu se voir autrement.
Ouais.
Pour nos retrouvailles, c'était un petit
et
peu.
Et on s'est quand même posé la question pendant 3 jours avant si on se faisait un câlin ou pas, parce que du coup, j'étais encore. Techniquement, j'étais encore pas dans la zone de retrouvailles. Enfin, c'était très compliqué et en même temps, j'étais ok avec mon retour parce que je retrouvais mes proches et je me disais, bah voilà, t'as vécu ton truc. À l'étranger, maintenant, le but de partir, c'était de rentrer un jour. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais vécu. Mais moi, me réadapter à la France, ça a été compliqué. Et puis, ça m'a fait me rendre compte aussi que ce que j'avais fait à un moment, c'était les Français, quoi. Et c'est horrible de dire, mais c'est vrai, la légende est vraie. Les Français sont râleurs et un peu relous.
On est des gros cons.
Et ça, j'ai eu un petit peu de mal à le vivre. Et puis... j'ai vécu pendant un an dans un pays très ouvert d'esprit sur tous les aspects, la différence physique, mentale, vraiment un pays hyper ouvert d'esprit où plus t'es différent plus c'est cool en fait, et tu reviens en France et on te regarde chelou parce que tu fais 30 kilos de trop, enfin là-bas faire 30 kilos de trop c'est stylé, tu vois, genre, enfin, le mood est complètement différent.
Ouais, le spectre est pas du tout.
Et du coup très compliqué et en même temps retour facilité parce que j'ai un studio qui m'attend, parce que mon papa a acheté un appart et qui peut nous mettre dedans le temps qu'on trouve quelque chose. J'ai un travail qui me tombe presque tout cuit dans les mains, enfin facilité mais compliqué quand même moralement. Mais facilité, et en fait, je me dis, t'as pris une décision, tu l'as suivie en France, tu l'aimes, on y va, quoi. Et du coup, je me suis mis un coup de pied au cul, et pour accepter, en fait, le retour, et pour accepter aussi que la parenthèse qui était le voyage était finie. Et je me suis dit, t'es rentrée par amour, bah maintenant, fais de la limonade sans les citrons, quoi.
Tu comprends que si tu l'as vécu. Parce que à l'époque où t'es rentrée, je suis même pas sûre de t'avoir demandé... genre, est-ce que tu vis bien le retour? Parce que de l'extérieur, t'as un peu ce truc, bah tu retrouves ton chez toi, tu retrouves tes proches, enfin forcément c'est cool, tu vois, genre ce que t'as vécu c'est génial, mais c'est. Moi je supportais pas quand mes proches me disaient, c'est une belle expérience. Et j'étais genre, mais vous comprenez pas, je veux pas que ce soit une expérience, je veux que ce soit ma vie!
T'as l'impression que ton spectre est radicalement différent de ceux des autres en fait, qui sont restés en France et qui ont vécu leur vie en France. Et moi j'avais cette sensation d'avoir débloqué d'autres parties de mon cerveau que les gens qui sont jamais partis. Et t'es là genre, mais non, mais tu peux pas comprendre. Et t'as pas envie d'être la personne, c'est un peu comme les bilingues, toi, t'as pas envie d'être le connard qui parle anglais. Mm. Bah là, t'as pas envie d'être le connard qui est parti en voyage. Mm. Et en même temps, dans le fond, il y a un peu de ça.
Ouais.
T'as un peu le connard qui est parti en voyage et qui dit, c'est pas que je veux être méchante, c'est pas que je veux être supérieure, juste t'es pas parti.
Ouais,
et tu sais pas ce que c'est de rentrer.
Mm.
Et quand tu chiales juste parce que t'as la sensation de pas être au bon endroit, bah laisse-moi chialer, quoi.
Ouais, non mais c'est clair. Bah c'est pour ça que c'est avec toi que je chialais, parce que tu savais.
Et que j'aime bien essuyer tes larmes.
Mais bah après moi j'ai l'avantage, c'est que ma famille savait ce qui les attendait, c'est-à-dire que je suis revenue pour leur dire merci à tous
et ciao.
Exactement. Je pense que je peux le dire maintenant, même si au boulot c'est pas officiel, mais ma boss est au courant. Et encore une fois, elle est incroyable puisqu'elle me soutient, c'est que... Autant c'était pour moi absolument impensable, juste avant de partir, de quitter mon travail. Et même encore à Melbourne, je parlais de congé sabbatique. 3 mois après être rentrée, j'ai annoncé à ma boss que j'allais partir, mais partir. Et elle l'a compris. Et donc, au mois de mars 2024, je m'envolerai de nouveau pour l'Australie. Je me pose même pas la question, en fait. C'est, je sais que je vais repartir et je pense que je vais mieux dans ma vie en France depuis que je sais que je ne reste pas ici.
Eh oui. Mais parce que justement, du coup, tu sais que tu peux pas vivre comme dans une salle d'attente.
Non, c'est ça. Je vis tout ce que j'ai à vivre ici parce que de toute façon, je vais repartir. Et j'ai hâte. En même temps, c'est un petit peu frustrant dans le sens où je sais que tout ce que je vis ici a une
date d'expiration.
Exactement. Mais en fait, c'est une évidence. C'est-à-dire que ce petit voyage de 2 mois a débloqué un truc, enfin, m'a ramené à ce dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire vivre à l'étranger. Et que je pense que j'ai mis les pieds dans la pataugeoire et je me suis dit genre, ok, en fait, je gère hyper bien. Et maintenant, bah, on fait le grand saut, on enlève les brassards et puis on y va pour de vrai.
Du coup, est-ce que ton voyage est un pédiluve?
Moi qui ai horreur des pieds en plus. mais par contre, ça a déverrouillé une nouvelle peur, parce que je trouvais qu'on n'avait pas assez. C'est est-ce que j'arriverai à revenir un jour? Parce que je suis même pas partie, que je suis déjà en train de me dire, alors je vais faire l'Australie, puis je vais faire la Nouvelle-Zélande, et puis le Costa Rica, ça a l'air sympa. J'irais bien faire un tour à Toronto, putain, c'est hyper dur à dire. L'Islande, je voudrais aller en Islande. Et je me dis, mais en fait, peut-être que je reviendrai jamais.
Et c'est grave.
C'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant, parce que ce que vivent beaucoup de gens autour de moi, moi je l'ai vécu plus jeune, on se pose, on se paxe, on achète un appart, on achète une maison, on vit en couple, on construit un truc. Moi, je l'ai vécu il y a un petit moment maintenant. Et ce que les gens vivaient à cette époque-là, c'est-à-dire post-études, on va voyager, on va vivre l'aventure, ben moi, je le vis aujourd'hui à 26 ans.
Ouais, mais c'est trop chouette. C'est trop chouette parce qu'en fait, que tu le vives à cette époque-là ou que tu le vives maintenant, l'important, c'est que tu le vives et que tu sois aligné avec ça, ouais. Tu vois.
Ah ben, je suis hyper alignée. Et c'est surtout que maintenant, voilà, aujourd'hui, à 26 ans, je suis prête. J'ai déjà fait suffisamment de voyages toute seule pour savoir que je sais être toute seule à l'autre bout du monde, je sais gérer, je m'en sors toujours et j'ai pas peur en fait. C'est que en fait l'envie a dépassé la peur depuis longtemps et du coup maintenant c'est juste du kiff.
C'est beau ce que tu dis. C'est très beau.
Puis je pense que ça fait partie de qui je suis et que juste je l'avais oublié, surtout.
Je pense, oui. Je pense que tu avais fait le choix de prendre d'autres projets comme centre de ta vie.
Bah parce que c'était la suite logique sur plein de points et parce que c'était plus rassurant aussi.
Ah bah oui, non mais ça, c'est
d'aller sur des chemins plus classiques.
On en revient à la peur, hein.
C'est ça. Mais je pense que c'est lié aussi à mes 3 années de célibat, de travail sur moi, de voyage toute seule, de je vis toute seule. Bah ça m'a reconnectée à qui je suis, à ce que je veux.
Et tu te remets au centre.
Je me suis remise au centre et j'ai vraiment ce truc, cette sensation d'être alignée, c'est vraiment physique et je sais que voilà, repartir c'est la seule chose, enfin ouais, c'est la bonne chose à faire pour moi, c'est ce qu'il faut que je fasse et je sais que c'est l'Australie pour commencer.
Moi je te rejoins un peu, je réfléchis régulièrement à repartir. Je sais que j'en suis pas capable aujourd'hui parce que j'embarquerais trop de valises avec moi, mais là on parle pas de valises physiques, mais de valises émotionnelles, et que...
Je peux me permettre une anecdote, c'est que tu m'as prêté une valise pour partir en Australie, mm-hmm. Et sur cette valise, il y a un petit sticker avec marqué « bagage émotionnel ».
Oui, tout à fait. Ah, je suis très honnête avec moi-même, hein, y a pas de problème. Non, mais je réfléchis souvent à partir, je pense que je le referai, je pense que je me vois pas vivre toute ma vie en France. Aujourd'hui, si je devais choisir un pays, ce serait probablement l'Angleterre, je crois. Pourquoi ? Parce qu'il y a une proximité avec la France et que j'ai l'intention de continuer à voir mon petit frère, à voir ma maman. J'ai l'intention de garder un lien avec mes potes. Et puis aussi parce que je crois qu'il y a un côté très british, très grunge qui m'attire en Angleterre et qui réveille quelque chose en moi. Là, aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est que mon voyage en Nouvelle-Zélande, il aura une suite. J'ai une de mes meilleures copines que j'ai rencontrées là-bas, ma copine tchèque, qui elle aussi a vécu finalement le film.
puisqu'elle a rencontré son amoureux sur Tinder pendant le confinement. Que après le confinement, ils se sont vus en vrai et qu'ils sont tombés amoureux très 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 fort. Sauf qu'elle, elle a fait un peu comme toi, c'est-à-dire qu'elle a dit « je t'aime, mais il faut que je rentre », parce que c'était ce qui était prévu. Elle a tenu 3 mois et elle est repartie. Et aujourd'hui, ils vivent là-bas. Et elle a la maison, le chien. Et j'ai appris le jour de mon anniversaire qu'il l'avait demandé en mariage.
Oh, c'est trop beau.
Et du coup, dans 2 ans, j'ai rendez-vous là-bas pour aller fêter ce mariage-là. Et je trouve qu'il n'y a pas plus belle façon que de... Dans ma tête, ce sera mettre un point final que moi, j'aurais choisi à ce voyage-là. Et tu vois, tu parlais d'alignement, je crois que ce serait la meilleure décision à prendre. Donc voilà. Mais je pense qu'on a, et toi et moi, on aura encore plein de choses à dire sur le voyage parce que nos aventures sont loin d'être finies.
Très clairement.
Et on vous embarquera peut-être avec nous, la commu.
Oui, parce que grâce à ce podcast, on a décidé qu'on allait devenir riche et voyager dans le monde entier.
Voilà. Et du coup, vous racontez nos histoires et nos aventures.
Tout à fait.
Voilà.
Envoyez la moula, merci.
En tout cas, si à un moment vous hésitez à partir en voyage, n'hésitez plus. L'argent, c'est important pour partir en voyage, la sécurité aussi, mais la découverte de soi, ça passe par en fait s'éloigner de tout ce qu'on connaît pour aller chercher ce qu'on connaît pas.
Sortir de sa zone de confort. Quoi.
Et dans ce qu'on connaît pas, il y a un petit bout de nous, quoi. Faut aller le chercher, faut aller le chercher.
J'ai la sensation qu'il y a une partie de moi qui est restée là-bas et je vais retourner la chercher, quoi.
Alors que moi, je suis persuadée qu'il y a une partie de moi qui est restée là-bas et une partie de mon couple aussi. Et je vois très bien où, sur la plage de Napier en face de l'auberge où on a fait notre confinement. Mais je suis contente qu'elle soit là-bas. C'est. Là vous vous êtes dit, ça y est, elles sont complètement ravagées, les petites dames. C'est normal, c'est la fin du podcast, d'accord?
On est ravagées de toute façon.
Oui, de toute façon. Mais si à la fois je dois me souvenir de moi d'une certaine façon, je veux me souvenir de moi les cheveux violets en train d'écrire au bord de la plage. Et si je dois me souvenir de mon couple à un endroit, c'est là-bas aussi. Où on passait l'heure qu'on avait le droit d'aller nous balader juste en face de l'auberge à se raconter nos vies, à chanter et à faire des projets de vie. Moi j'ai pas envie d'aller la chercher, elle est bien là-bas. La chacha-t-il. Elle est très bien. Merci d'avoir écouté nos petites aventures. Vous vous doutez qu'on en aura encore plein à vous raconter. J'ai pas de faim.
Ben, c'est bien.
Oh, c'est beau.
ça veut dire qu'il y aura une petite.
Allez, à la prochaine.
Et ben, à la prochaine.
La bise.
Ciao, bisous.